Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Monty Python's Flying Circus.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale série télé avec la très 80s, l'agence Tourisque. On parlera aussi de la passionnante série noire britannique de Paul Andrew Williams avec Martin Freeman qui s'appelle A Confession. Ces deux séries sont disponibles chez Elephant Film. Et puis nous aborderons la cultissime série comique Monty Python's Flying Circus qui vient d'être honorée d'un magnifique coffret chez Rimini Éditions. Un coffret dans lequel d'ailleurs dans les bonus figure une interview d'Alain Carazé et Romain Nigita. Et justement Alain Carazé et Romain Nigita viendront dans la deuxième partie de l'émission nous causer de cette série Monty Python's Flying Circus. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier tout particulièrement Blanche Awardio et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc.
Toutes celles et ceux qui ont été jeunes durant les années 80 n'ont pas pu passer à côté de cette série télé absolument inoubliable, bien que ce soit très loin d'être la meilleure série télé de tous les temps, mais qui a profondément marqué les esprits, c'est l'agence Tourisque. L'agence Tourisque qui est créée par quand même Franck Loupeau, le fameux Franck Loupeau, qui a créé une autre série dont on a parlé d'ailleurs dans l'émission qu'on aime beaucoup, qui est La Malédiction du Loup-Garou. Il a aussi créé Rick Hunter. Hein, j'adore. Il adore les punchlines en fait, puisque Rick Hunter, je crois que dans le générique, il disait ça marche pour moi. Enfin, et là, le fameux Hannibal, le chef du groupe dans l'agence Tourisque, lui, il dit toujours j'adore un plan qui se déroule sans accroc. Enfin, il le dit pas tant que ça quand on revoit l'intégrale de la série. Et c'est également créé par Stephen G. Cannell. Alors, Stephen G. Cannell, il a créé à peu près toutes les séries à peu commerciales, on va dire, des années 80, même un peu 90, comme les Dessous de Palm Beach, par exemple. Alors, nos deux créateurs, ils ont l'idée de créer une série qui tourne autour d'un groupe d'anciens héros de guerre, enfin des héros de guerre déchus, qui sont des fugitifs en fait, et qui sont poursuivis par l'impitoyable colonel Lynch, puisque évidemment ils vivent dans la clandestinité vu qu'ils tentent d'échapper à la justice à un tribunal militaire. Ce petit groupe de frappadingue est devenu un groupe de mercenaires. Alors en vrai, les mercenaires, c'est pas forcément très sympathique, mais dans la série, ils nous les rendent sympathiques. C'est quand même un peu une bande de psychopathes, parce qu'il y a un épisode où on s'aperçoit qu'ils ont des armes cachées dans tous les coins de la maison, tout ça. Enfin, dans la vraie vie, je pense qu'on les trouverait moins sympas, mais en série télé, on les trouve très très bien. Et donc la série va durer 5 saisons. Et Elephant Film nous permet de voir enfin ces 5 saisons avec tous les épisodes, des épisodes dans des versions non coupées. Alors si vous regardez la VF, parce que la VF est quand même assez sympa, la VF d'époque, si vous regardez la VF, les parties inédites sont en sous-titrées. Enfin, c'est un très beau travail, l'image est très belle, enfin, c'est du bon boulot, tout ça c'est en Blu-ray, donc évidemment ils n'ont pas fait semblant, nos amis d'Elephant Film. Et alors, qui c'est cette bande? Alors c'est un peu remis au goût du jour, la A-Team, l'agence touriste, qui a été remise au goût du jour par un film de Joe Carnahan. Elle est constituée de plusieurs personnes. Alors il y a Il y a, comment dire, le chef du groupe, c'est Hannibal. Hein. Hannibal, c'est vraiment le chef. Il a toujours des gros cigares au coin des lèvres. Et puis, c'est surtout un acteur qui est une vraie star d'Hollywood, hein, qui était George Peppard, dont on a parlé pour plusieurs films déjà dans cette émission, qui incarne une certaine coolitude, il faut bien le reconnaître. Et c'est certainement l'un des personnages les plus réussis de cette série. On accroche tout de suite au personnage d'Hannibal. Il y a avec lui le beau gosse futé, hein, interprété par Dirk Benedict, qu'on a pu voir dans Battlestar Galactica. Dirk Benedict, c'est le beau gosse, il charme toutes les femmes, il est malin, il arrive toujours à embobiner tout le monde. Voilà. Il y a le pilote exceptionnel qui parle plusieurs langues, qui maîtrise tous les appareils, qui est absolument incroyable, mais son problème, c'est qu'il est fou. C'est Looping qui a marqué les esprits, hein, évidemment, qui est interprété par Dwight Schultz, qui trouve là un peu le rôle de sa vie. Et puis, il y a Barracuda, qui est le conducteur, qui est aussi une sorte de MacGyver noir, plein de muscles et de testostérone, puisque c'est un... avec sa coupe à l'iroquoise, ses chaînes qu'il porte, symbole à la fois de la frime, mais aussi de l'émancipation des Noirs américains. Hein. Bon, il a un peu piqué ça à Isaac Hayes, mais ça le fait. Hein. Et Mr. T... Donc, qui est aussi célèbre pour avoir joué le méchant boxeur dans Rocky III, L'œil du tigre. Et là, il fait l'incroyable Mr. T, hein, donc, l'incroyable, comment dire, Barracuda, qui est une sorte de géant indestructible. Bon, sa seule peur, sa némésis, c'est de prendre l'avion. Donc, comme ils prennent régulièrement l'avion, ils sont souvent obligés de l'endormir, de trouver des stratagèmes et tout ça, voilà. Et puis, ils sont suivis dans les quatre premières saisons d'une journaliste interprétée par la craquante Melinda Culea, qui trouve là le rôle de sa vie. On ne l'a pas revue dans autre chose, en fait, qui s'appelle Amy, voilà, et qui, en fait, c'est elle qui les contacte dans l'épisode pilote pour aller délivrer un ami journaliste, parce qu'elle est journaliste, hein, un ami journaliste qui est prisonnier un peu d'une bande de mercenaires révolutionnaires sud-américains qui oppriment le pauvre peuple, voilà, et puis l'agence touriste va arriver, ils vont tout régler. La série, évidemment, elle est très marquée dans son époque, hein. Je vous l'ai dit, ce qui fait l'intérêt de la série, c'est que les personnages sont particulièrement bien écrits. C'est des personnages... on est vraiment dans la coolitude, assez sympathique, c'est assez fun, c'est très spectaculaire, il y a beaucoup d'explosions, de cascades. Enfin, c'est une série à gros budget, voilà. Le seul bémol qu'on peut mettre sur la série, parce que c'est un plaisir de revoir ça, moi, franchement, j'ai pris mon pied, mais on ne peut pas vraiment enquiller les 5 saisons d'un coup, parce que... Alors, la 5e saison est beaucoup plus faible, ils ont essayé de changer, justement, ce que je vais vous décrire là. C'est-à-dire que dans les 4 premières saisons, si vous avez vu l'épisode pilote, tous les épisodes sont faits sur le même modèle. Tous, sans exception, avec la même histoire, c'est-à-dire qu'on va les contacter, Hannibal va se déguiser, rencontrer leur client, et puis ils vont intervenir, faire la mission suicide, ils vont y arriver, sans tuer personne, ou quasiment jamais, en plus, c'est ça qui est rigolo, ça pète de partout, mais bon, voilà. Tout se termine toujours bien. Alors, dans chaque épisode, quasiment, ils sont obligés d'aller chercher Looping, qui est dans un asile militaire, donc obligés d'aller sortir de là. Mr. T nous fait son MacGyver, nous construit toujours des engins incroyables. Enfin, il y a des constantes dans la série qu'on retrouve vraiment dans chaque épisode. Alors, cet aspect répétitif peut être gênant, mais bon, si on est comme moi et on aime la série, le côté fun des contracts et puis le plaisir de revoir cette série est quand même assez sympathique. Pour moi, personnellement, c'est une madeleine. Je ne sais pas si Proust aurait aimé l'Agence Touriste, mais moi, j'aime beaucoup l'Agence Touriste. Donc, j'étais très content de revoir cette série où il y a en plus pas mal de guest stars. On va y croiser Michael Ironside, on va y croiser Dean Stockwell, par exemple. On va y croiser Robert Vaughn, dans un épisode assez sympathique qui fait référence au Man from U.N.C.L.E., aux agents très spéciaux. Enfin, voilà, je vous conseille vivement de cette série, cette belle intégrale éditée par Elephant Film, si vous voulez retrouver un peu votre âme d'enfant.
Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque.
L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment.
vous écoutez Culture Prune. Autre série, autre ambiance, hein, je vais vous parler d'une série là, qui m'a scotché, qui est également sortie chez Éléphant de Film, hein, mais qui m'a scotché, je ne m'attendais pas à une telle série. Une série produite par la chaîne ITV et qui s'appelle A Confession et qui est une excellente série, vraiment. Alors c'est sorti en DVD chez Éléphant de Film. Voilà, ça a été une claque pour moi, cette série. C'est porté par le fameux Martin Freeman, hein, le docteur Watson de la revisite du Sherlock Holmes et également le Hobbit, hein, de Peter Jackson. Donc l'excellent Martin Freeman, qui joue un policier, en fait, qui est confronté à un fait divers assez hallucinant. Il y a une jeune fille disparaît et en fait elle est victime d'un tueur, quoi, d'un tueur en série. Et Martin Freeman va enfreindre les règles de la procédure, tout simplement parce que ce tueur en série, lors de sa confession à Martin Freeman, normalement, dès qu'il avoue le premier meurtre, devrait être emmené au commissariat pour être cuisiné. Sauf que Martin Freeman, dans la foulée, il comprend très vite que le type veut parler et veut lui avouer un autre meurtre. Donc, il ne l'emmène pas au commissariat. Il est avec son équipe et tout, attention. Hein, mais il essaie de... Il se base sur une petite faille juridique pour demander à ce type de l'emmener sur les traces du deuxième corps. Et en faisant ça, il se tire une balle dans le pied, puisque au début, tout le monde le félicite. Hein, c'est fascinant, cette série, pour ça. Au début, tout le monde le félicite pour dire bravo, bravo, vous êtes le flic qui a arrêté le gars. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que la justice, elle va donner raison au gars, parce que comme les aveux n'ont pas été recueillis de la bonne manière, le type, non seulement, pourrait s'en sortir. Et à cause de ça, beaucoup d'affaires ne seraient pas élucidées. Et de véritables idoles de la population et de ses collègues, l'excellent enquêteur, donc campé par Martin Freeman, est mis à pied et devient, une sorte de mouton noir de la police.
On nous a signalé la disparition de votre fille.
Christopher Halliwell, je vous arrête pour suspicion d'enlèvement.
Où est passé Shan? Je sais que c'est vous.
Elle est là-dessous.
Vous en voulez une autre?
Vous n'avez pas lu ses droits, Christopher Halliwell, comme la loi l'exige. Pourquoi?
Je n'ai pas le temps de prendre des pincettes.
Vous allez être mis en accusation.
Pour faute grave.
C'est une blague. Il y a d'autres victimes.
C'est un tueur en série.
Dans la série, on suit le parcours de deux familles. Une famille... qui est une famille avec des parents séparés, tout ça, mais qui a une fille qui a disparu, et la mère est sûre que le deuxième corps, ça va être celui de sa fille, qui était une junkie, et l'autre famille, elle ne veut pas être comparée à cette jeune fille, parce que leur fille qui a été assassinée est une fille bien sous tout rapport, tout ça, enfin bon, bref. C'est grâce au combat de cette femme qui est persuadée que sa fille est victime du tueur, que la balance va s'inverser et que les lois vont être changées en Angleterre. Ça donne une série assez incroyable, puisqu'on c'est une série chorale où on voit sur trois familles, en fait, la famille du policier et les deux familles des deux victimes, on voit tout l'impact que peut avoir un tel drame sur un microcosme et aussi sur l'ensemble de la société. En fait, l'enquête policière en soi n'est pas dénuée d'intérêt, ni les scènes de procès, mais ce n'est pas ça qui intéresse le plus Paul Andrew Williams. Alors, Paul Andrew Williams, évidemment, il a bossé sur la série Broadchurch, qui est une série phénomène. Mais moi, je retiens surtout de Paul Andrew Williams. Alors, il a fait Bienvenue au Cottage, qui était au moment où il y a eu un peu, suite à Shaun of the Dead, une sorte de regain d'intérêt pour le cinéma fantastique britannique un peu parodique. Mais il a surtout fait un film noir, très, très noir, qui s'appelle London to Brighton, qui est vraiment excellent. Et là, on retrouve cette ambiance noire, très, très noire, dans les personnages, dans ses descriptions du quotidien, sa manière de filmer aussi, très près des visages, beaucoup de gros plans. Et comme je vous le disais, c'est pas l'enquête, c'est pas trop l'aspect juridique qui est fascinant dans cette série, et même si c'est pas dénué d'intérêt, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact des médias sur le quotidien de ces différents microcosmes au sein de la même ville. Ce qu'on voit aussi, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement, le lien avec ce qui peut être véhiculé parfois par les réseaux sociaux, comment la vie des victimes est étalée par les médias. Tout ça est très, très intéressant. C'est une très belle réflexion sur la société britannique. C'est une série qui va bien au-delà de son propos initial et très, très bonne surprise. Donc, on vous conseille A Confession de Paul Andrew Williams. C'est disponible chez Elephant Film. C'est une très courte série. Il y a très peu d'épisodes. C'est une mini-série comme les Britanniques savent si bien les faire. Et c'est absolument passionnant.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
I cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesday I go shopping and have buttered scones for tea.
He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesday he goes shopping and has buttered scones for tea. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars.
He cuts down trees, he skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day.
I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa.
I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra.
I wish I'd been a girly.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale série télé. La seconde partie de cette émission, nous allons la consacrer à une série cultissime, cultissime pour votre serviteur. Ce Monty Python Flying Circus, c'est une série comique, absurde, loufoque, géniale, démente, qui va être diffusée de 69 à 74 en Grande-Bretagne et qui est une succession de sketchs absolument géniaux, hilarants, hallucinant, enfin voilà, bon, certains sont très connus, comme le ministère des Marches Ridicules, par exemple, mais disons que cette réunion de talents, quand même, qui vont tous connaître ensuite, avec le groupe comique les Monty Python, mais aussi en dehors de ce groupe, une grande destinée, une grande carrière. Donc ce groupe qui réunit Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin et un nom anglais, un nom britannique, Terry Gilliam, le réalisateur de Brazil. Et c'est vraiment une série totalement hallucinante qui, à travers en plus son humour absurde typiquement britannique, brocarde la société britannique dans son ensemble, puisque tout le monde y passe, les hauts fonctionnaires, la politique, le sexe, la religion, la philosophie, les universités, parce que c'est quand même des universitaires de Cambridge et d'Oxford qui sont derrière cette série, des types d'une intelligence rare, et on est dans quelque chose de complètement autre. C'est une vraie révolution, cette série, avant même qu'elle existe. Rien de tel n'avait jamais été produit sur le petit écran, et rien de tel ne sera plus jamais produit par la suite. Il faut le dire, Alors là, le coffret de cette intégrale de 7 Blu-ray, 11 DVD, hein, sorti par Rimini Édition, est absolument fabuleux, puisqu'il comprend l'intégrale de la série, les 4 saisons pour 45 épisodes, l'interview du réalisateur Ian McNaughton, avec des images de tournage de la saison 2, un reportage tourné sur le set de la saison 2, une émission consacrée par la BBC au Monty Python, un module pour découvrir comment Terry Gilliam a découvert la restauration des séquences animées du Monty Python Flying Circus, parce qu'il y a aussi tout un délire avec des séquences d'animation qui sont concoctées par Terry Gilliam, qui est assez passionnant. Et puis, il y a un assortiment de séquences inédites, de scènes coupées, de versions alternatives de sketch. C'est indispensable. Vous allez passer des heures devant ce coffret à vous bidonner comme des malades. Et puis, dans ce coffret édité par Rimini Édition, il y a un bonus présenté par deux légendes, hein, des amateurs de séries télé. Alain Carazé, hein, on ne présente plus Destination Série, émission culte qui passait autrefois sur Canal Jimmy. Romain Nigita, que tout le monde connaît aussi pour sa passion pour les séries, qui est passé par Mad Movies. Voilà, et ces deux hommes qui nous font une présentation très érudite des Monty Python qui est absolument passionnante. Alors du coup, nous, on s'est dit, mais on va aller à leur rencontre pour qu'ils nous parlent un peu des Monty Python, qu'ils nous en disent un peu plus. Et donc, tout de suite, Alain Carazé et Romain Nigita au micro de Culture Prohibée. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi cette série télé, les Monty Python Flying Circus, est réellement culte, parce que c'est un terme un peu galvaudé. Aujourd'hui, on met culte à toutes les sauces, mais les Monty Python Flying Circus, c'est culte pour de vrai, on est d'accord?
Je pense que c'est culte pour deux raisons. Parce que c'était totalement avant-gardiste à l'époque et qu'aujourd'hui, ça n'a pas vieilli. Voilà, c'est aussi simple et basique que ça. À l'époque, c'était une totale révolution dans l'humour à la télé, puisque ça fait exploser les cadres à la fois dans la forme et dans le fond. Dans la forme, puisque ça brisait le quatrième mur avec des sketchs dans lesquels les personnages finissaient par s'adresser aux téléspectateurs avec le fameux colonel joué par Graham Chapman qui tournait vers la caméra en disant « Mais attendez, mais ce sketch est complètement idiot, on va passer à un sketch suivant ». Voilà, c'était un truc totalement impensable à l'époque, à la fin des années 60, à la télé, qu'on s'adresse comme ça aux téléspectateurs en plein milieu d'un sketch. Et puis, ça n'a pas vieilli, puisque à l'époque, les Monty Python s'attaquaient à tout ce qui était à la fois les institutions, que ce soit religieuses, politiques, traditionnelles, anglaises, et on voit que ce sont des attaques qui sont tout aussi valables aujourd'hui contre le conformisme qu'on peut connaître encore en 2021. Donc pour ces deux raisons-là, c'est une série qui n'a pas vieilli et qui donc reste culte.
Je suis absolument d'accord avec Romain, et il a dit le mot magique, à savoir que le mot culte, en effet, est galvaudé, comme vous l'avez très bien dit, mais la base de culte, c'est que ça n'a pas vieilli. La base de culte, c'est qu'on peut apprécier une œuvre, même 10, 20, 30 ans après sa création, à partir du moment où on se replonge un petit peu dans le contexte, mais on peut l'apprécier, elle n'a pas vieilli 10, 20, 30 ans après. C'est pas simplement une œuvre qui est populaire au moment de sa diffusion, c'est une œuvre qui reste intéressante, pertinente, émouvante, belle à voir, etc. Un peu comme un tableau, un peu comme une sculpture ou quoi que ce soit. C'est pas parce que la sculpture date du siècle dernier, voire même de deux siècles derniers, qu'elle n'est plus aussi belle de nos jours. Ben voilà, une série culte, c'est pareil, c'est une série qui franchit les époques sans obligatoirement subir les ravages du temps et sans devenir décalée, ringarde, sans fond, sans contenu, etc. Donc c'est le cas des Monty Python. Enfin, je veux dire, c'est toujours aussi pertinent de nos jours et c'est toujours aussi révolutionnaire.
Et bah justement, bah le mot est lancé, révolution, vous l'avez dit tous les deux. Hein. La série, c'est une véritable révolution. Elle est diffusée de 69 à 74. Comment expliquez-vous que la chaîne, c'est sur la BBC, je crois, mise sur un tel projet et ce qui paraît assez dingue, et quel accueil le public lui a réservé, parce qu'on a du mal à croire que cette série puisse rencontrer un succès phénoménal. Ça paraît être... On ne voit pas des producteurs, enfin des diffuseurs oser aller vers une série comme ça quand on lui présente sur le papier.
La série a marché à la BBC tout simplement parce que... Enfin, la série a été lancée à la BBC tout simplement parce que la BBC ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'est aussi simple que ça. Ils ont dit d'accord, faites-nous des sketchs, mais quelque part, ils ne se sont pas réellement souciés de ce qu'il y avait dedans. Et donc, les Monty Python, ce groupe de comiques, a pu faire un peu ce qu'ils voulaient. Et ça n'a été qu'à partir de la deuxième, voire de la troisième saison que, vu l'impact que ça avait auprès d'un certain public, la BBC s'est dit « Ah, il faudrait peut-être qu'on regarde avec un peu plus de détails ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. » Sinon, pour la BBC, c'était un programme au milieu de tous les autres, c'était une série de sketchs au milieu de toutes les autres séries de sketchs. Voilà pourquoi ça a été lancé par la BBC. C'est parce qu'il y a des gens de talent qui ont profité de la situation plutôt que de faire quelque chose de banal, parce qu'on leur donnait un peu les clés, on leur donnait les clés de l'asile, donc ils sont devenus aussi fous que les fous qui étaient dedans, quoi.
Comme l'a très bien dit Alain, c'est vrai que au départ, en effet, cette série a été commandée en interne par la BBC. C'est l'équivalent de l'ORTF ou France Télévisions aujourd'hui, donc la télé publique. Surtout dans les années 60, elle se permettait de faire pas mal d'essais et de commander des choses pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, il se trouve que les différents membres de ce qu'allait être appelé ensuite l'équipe des Monty Python travaillaient déjà à la télévision, à la fois en tant qu'auteur et que comédien, pour différentes émissions. Ils travaillaient pas forcément tous ensemble, mais ils naviguaient un peu dans ce milieu-là. Et un jour, un des responsables, un des directeurs de programme leur a dit « Écoutez, visiblement, on fait des trucs sympas. Allez, je vous commande 13 épisodes d'une émission. Il n'y avait aucun concept, il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien. Juste voilà, vous, votre petite bande, là, ça, allez, jouez ensemble, vous allez faire 13 épisodes d'un truc. » Et c'était tellement le bazar, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de concept, que finalement, eux-mêmes, ces six auteurs comédiens, ont fini par se dire ça part tellement tous les sens, ça va être un cirque volant. Et puis, le nom du responsable de la BBC qui leur a commandé cet épisode s'appelait Barry Took, donc on appelait ça le cirque volant de Barry Took. Puis après, ils se sont dit finalement, Barry Took, personne ne sait qui c'est, puis c'est un peu trop autoréférencé, donc on va inventer un nom. Il y a un mec dans ce pub auquel on va souvent, qui s'appelle Monty, on trouve que c'est rigolo comme prénom, et il faut trouver un nom de famille. Si on l'appelait d'un nom un peu comme un serpent vicieux, visqueux, un python, donc ça va s'appeler le cirque volant de Monty Python. D'où le titre de la série, Monty Python Flying Circus, qui est pas du tout le nom de l'équipe, mais pour vous dire à quel point il n'y avait rien qui était réfléchi à la base, il n'y avait pas de concept. Et c'est pour ça que la BBC a commandé ça, comme l'a dit Alain, ils ne savaient pas ce qu'il y aurait dedans. À tel point même, pour vous dire, que ce nom de cirque volant a induit en erreur les tout premiers spectateurs de la série. Puisque, comme c'était une émission à sketch, comme ça se faisait à l'époque, y compris pour les sitcoms lors du tournage en Angleterre, c'était tourné en public. C'est-à-dire que les rires que vous entendez, ce ne sont pas des rires enregistrés, c'est vraiment du public qui assistait aux sketchs qui étaient tournés en studio. Il y a aussi des sketchs en extérieur, là il n'y a pas de public, mais la plupart des sketchs en intérieur, il y avait du public. Et donc l'annonce pour trouver ce public indiquait le titre de l'émission, mais que personne ne connaissait, puisqu'avant la première saison, elle ne passait pas encore à l'antenne. Donc les gens qui voyaient recherche du public pour le cirque volant de Monty Python pensaient que c'était vraiment du cirque. Ils pensaient qu'ils allaient assister à un spectacle de cirque. Donc en fait, c'était des grands-parents qui amenaient leurs petits-enfants pensant que ça allait être la piste aux étoiles ou un truc comme ça. Et ils se sont retrouvés, évidemment, face au sketch complètement absurde des Monty Python. Donc les premiers enregistrements, évidemment, ne sont pas très bien passés. Et ce dont se sont rendus compte, finalement, la BBC, c'est que ceux qui regardaient le plus l'émission à l'époque, en tout cas la première saison, c'était surtout justement des lycéens, des jeunes, voilà, plutôt que les parents. C'est vraiment un jeune public, ou ado, ou jeune adulte, qui comprenait un peu cet humour. Il faut dire qu'en plus, l'émission n'arrêtait pas de changer d'horaire. Il y a des semaines où elle était diffusée, des semaines où elle ne l'était pas. Donc c'était un peu chaotique pour le trouver dans la grille. Et finalement, le succès est venu avec le bouche-à-oreille. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'une fois que la BBC a vu les premiers épisodes, puis les saisons suivantes, on pourrait dire que avec la première saison, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, ces attaques contre la religion, la politique, etc., étaient passées un peu sous le radar, mais qu'ensuite ils allaient être censurés sur ces différents points-là. Et pas du tout. La BBC a toujours laissé passer ces attaques contre les institutions. Les seules tentatives de censure qu'il y a eu de la part du BBC, c'était contre certains dialogues qui parlaient de masturbation et de pipi. C'est les seuls trucs contre lesquels la BBC a dit « quand même, là, vous allez un peu trop loin ». Mais dès qu'on s'attaquait à la justice, à la religion, à la reine, etc., ça passait sans problème.
Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la base, en fait, de la BBC. On connaît assez peu ça en France. On part du principe que parce que c'est une chaîne de télévision d'État, elle est verrouillée, c'est la parole de l'État, c'est le gouvernement, etc. C'est ce qu'on entend beaucoup en France, dans lequel, encore de nos jours, on veut supprimer les chaînes d'État, etc. Pas du tout. C'est même l'inverse. La BBC, parce que c'est une chaîne qui est faite avec l'argent du contribuable, a comme point d'honneur de repousser les limites de ce qui est dit, de ce qui est montré, justement pour que le contribuable en ait pour son argent. C'est que quelque part, leur volonté, justement, est de se dire, nous, on peut se permettre d'attaquer la politique, on peut se permettre de parodier la religion, on peut se permettre de caricaturer la famille, les valeurs britanniques, parce que de toute façon, étant donné qu'on est une chaîne d'État, c'est ce que les gens attendent de nous, qu'on soit impertinent. C'est vraiment très intéressant. Si vous voulez un espèce de rapport avec la télévision française de l'époque, les Monty Python fait une circuit sur la BBC, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a eu en France dans les années 60 avec les Shadowc de Jacques Roussel. Mmh. À savoir un programme lancé par la télévision, la télévision française dans ce cas précis, une série animée, qui est passée sous le radar des responsables et qui finalement était tellement impertinente, tellement différente, tellement novatrice que c'est devenu un phénomène. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Monty Python.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Vous écoutez Alain Carazé et Romain Digita, deux grands spécialistes des séries télé, au micro de Culture Prohibée.
It makes you feel so sort of insignificant, doesn't it?
Yeah, yeah. Can we have your liver then?
En fait, le seul risque véritable de censure qu'a failli connaître l'émission Monty Python Flying Circus, c'est le fait que l'émission a bien failli disparaître totalement des archives de la BBC.
Absolument.
Mais pour une raison qui n'était absolument pas liée au contenu en tant que tel, mais qui était liée à la manière de fonctionner de la BBC de l'époque, qui se disait, de toute façon, c'est une émission de flux, ce n'est pas destiné à être diffusé, tout comme les autres émissions de la BBC. Ils étaient vraiment dans une logique de flux, et ils n'imaginaient pas, mais comme personne n'imaginait à l'époque, que 10, 20, 30 ans plus tard, les gens voudraient revoir ça, que ce soit en rediffusion de télé, en VHS, en laserdisc, en DVD, ou sur une plateforme de streaming. Personne n'imaginait ça à l'époque. Et le fait est que la BBC, à l'époque, travaillait principalement en vidéo. Contrairement aux Américains, où la plupart des séries des années 50, 60, 70, etc. étaient tournées sur pellicule 35 mm, comme les films de cinéma, ce qui fait que bah, finalement, une fois que vous avez votre pellicule, vous ne pouvez pas la réutiliser, donc autant la garder, ce qui est la raison pour laquelle on a toujours les épisodes de la quatrième dimension, des Incorruptibles, de Star Trek, etc. Bah, à l'inverse, la BBC travaille en vidéo, donc avec des cassettes vidéo, un peu comme on a connu les VHS,
mais des bandes 1 pouce. des bandes 1 ou 2 pouces.
C'est des bandes non seulement très grandes en termes de place, mais qui coûtaient très cher. Donc si la BBC voulait garder absolument tout à l'époque, ça veut dire d'abord avoir des entrepôts pour garder ses cassettes. Et en plus, c'est des cassettes très chères, donc il aurait fallu racheter des cassettes pour chaque nouvelle émission. Donc ils se sont dit, vu que ça n'intéressera personne en rediff, on va réutiliser les cassettes. Un peu comme nous dans les années 80-90, quand vous enregistrez avec votre magnétoscope, vous écrasiez vos cassettes, et bien BBC faisait ça avec ses propres émissions. C'est la raison pour laquelle, notamment, il y a beaucoup d'épisodes de la série Doctor Who des années 60, qui sont tout simplement, qui ont totalement disparu des archives. Et bien, le Monty Python Flying Circus a failli connaître le même destin, et c'est rend in extremis que Terry Jones, l'un des Monty Python, qui était un peu le chef, enfin qui était un peu le chef, parce que malheureusement il est décédé il y a quelques années, un peu le chef non officiel, a lui-même racheté les bandes de l'émission avant qu'elles soient effacées, il les a stockées dans son grenier. Et pareil avec Terry Gilliam, donc l'américain de la bande, qui est celui qui faisait les petites animations, les petits dessins animés qui s'intercalaient entre les sketchs, bah lui il a racheté toutes les pellicules de ces animations. Et c'est parce que Terry Jones et Terry Gilliam ont sauvegardé eux-mêmes, leur propre initiative, ces archives, qu'ensuite la série a pu être diffusée dans les années 80-90, a pu être exploitée en DVD, en Blu-ray, etc. Sans ça, l'émission aurait tout simplement disparu de la surface de la Terre.
Vous en parliez à l'instant, l'une des caractéristiques aussi de la série, c'est ces séquences animées un peu particulières où, qui sont là aussi quelque part révolutionnaires et qui sont signées, donc Terry Gilliam, hein, qui fera la carrière qu'on connaîtra ensuite.
Et Terry Gilliam était l'Américain, la pièce rapportée du groupe, puisqu'ils étaient tous anglais, et Terry Gilliam était passionné par ce qui était animation. C'est vrai que faire des petites séquences d'interstices entre les sketchs qui pouvaient éventuellement servir de lien entre les sketchs, même s'il n'y a pas de lien entre les sketchs parce que toute l'émission est faite sous un format un peu marabout, bout de ficelle, etc. Quelque part, il était un peu là pour ça. Sauf que lui a profité, un peu comme les autres, de la situation, à savoir, puisqu'on me demande de faire des petites animations, puisque je vais les faire à ma sauce, je vais les faire aussi en me moquant un peu de la société, en me moquant de la religion, en me moquant de tout le reste, en assemblant des éléments un peu disparates, en faisant des papiers collés animés, des choses comme ça. C'est absurde, hallucinant, et c'est pas du tout dans le style de l'animation qu'on pouvait voir à la télévision à l'époque. Hein, c'est quelque chose de totalement différent, quoi.
En fait, la raison pour laquelle les cinq Britanniques de la bande ont fait appel à lui, c'est aussi parce qu'ils savaient qu'ils n'arrivaient jamais à trouver de chute à leur sketch. Ils n'arrivaient pas à conclure leur sketch, donc ils se sont dit, faut un élément extérieur, et on connaît cet Américain, c'est John Cleese, qui l'avait rencontré lors d'une tournée avec sa troupe de théâtre étudiante aux États-Unis. Ils se sont dit, on va lui demander de faire ses liens entre les sketchs, tout simplement parce que nous, on n'arrive pas à conclure nos sketchs, c'est aussi bête que ça. Et comme le disait Alain, dans ces animations, on trouve aussi une certaine critique du poids et du classicisme et des traditions de la société de l'époque, puisque Gilliam utilise des photos d'icônes classiques. Il y a des photos de statues, il y a des photos de représentations mythologiques, d'hommes politiques, etc. Ces animations partent de photos de gravures très classiques, mais qu'il détourne, qu'il fait bouger, dont il fait danser des fois le French Cancan en greffant des jambes de danseuses à des statues ou à des hommes politiques. Donc il y a une manière là aussi de détourner les conventions de l'époque.
Alors, vous l'avez dit à l'instant, c'est vrai que dans cette série, il y a des détournements, des références, parce que ce sont des érudits, les loustiques, là. Et en fait, leur écriture est beaucoup plus riche et travaillée qu'on ne pourrait le croire. Il y a des références parfois très incongrues. On y reviendra après. Est-ce que vous avez déjà essayé, d'ailleurs, on se demande même, est-ce que c'est possible de répertorier toutes les références qu'ils ont glissées dans leur sketch ?
Sans doute, mais moi je l'ai pas fait. Je dois avouer, je ne suis pas. Je ne suis pas. Prenons deux ans
voilà.
Pour tout répertorier.
Nous n'avons pas ni Alain ni moi écrit une thèse sur les Monty Python. Mais ce qui est prodigieusement intéressant, c'est de voir que ces références tapent dans tous les secteurs de la culture. Pour vous donner deux exemples, il y a un sketch dans lequel on trouve des types déguisés en Superman. Et il y en a un autre où c'est le match de foot qu'ils jouent entre philosophes de la Grèce antique. Okay. Donc voilà, pour la culture des Monty Python va des philosophes de la Grèce antique jusqu'aux comics de super-héros, avec tout ce qui est entre les deux. Donc voilà, ça vous donne un peu un étendu de tous ceux dans quoi ils tapent. Parce qu'en effet, vous disiez, ce sont des érudits. Les différents membres de la troupe des Monty Python, en fait, se sont rencontrés à la fac. Ils étaient pour les uns à Cambridge et pour les autres à Oxford. Ils sont issus de familles, on va dire, de la classe moyenne ou un peu aisée. C'est la première génération de l'après-guerre et ils vont tous à la fac pour, normalement, faire des métiers un petit peu comment dire, élevés dans les classes sociales pour devenir avocat, dentiste, médecin, etc. Sauf que ça ne les intéresse absolument pas. Et il est tradition dans ces facs britanniques qu'il y ait des troupes. Ils vont se rencontrer les uns et les autres lors du Festival d'Édimbourg, qui est un peu l'équivalent du Festival d'Avignon pour le monde anglophone. Et voilà, c'est tout va démarrer comme ça.
Ils ont tellement redéfini la notion d'absurde, ils ont tellement que voilà, on a tous des images fortes en tête. Bah, d'ailleurs, en quoi ils ont redéfini la notion d'absurde d'ailleurs ? C'est une question un peu philosophique, mais bon.
Je crois que c'est l'un des Monty Python qui, de toute façon, était très influencé par le dadaïsme. Ça, Romain, par contre, va pouvoir peut-être me confirmer ça. Et c'est de ça qu'il a voulu justement faire un humour situationniste, dadaïste. Et il s'est dit, tiens, on va aller dans cette direction-là plutôt que de faire des sketchs. On disait tout à l'heure, en effet, qu'il y avait des références. Mais ce qui est bien, c'est que les références ne sont jamais des références d'époque. Je veux dire, c'est jamais des références à un homme politique, à une situation donnée, etc. C'est pas quelque chose qui peut faire que le programme va être daté ou qu'il faut connaître la référence pour saisir l'humour et ainsi de suite. Ce sont des références plus globales à la société de l'époque, mais à la société globale. Mais il n'y a pas de... Je veux dire, quelque part, c'est pas comme, si vous voulez, un rapprochement avec la France, c'est pas comme Le Petit Rapporteur ou Les Guignols de l'Info, qui étaient très très drôles et qui sont très intelligents aussi, mais qui, quelque part, étant donné que c'est hyper référencé avec l'actualité de l'époque, demande en effet énormément de travail pour les resituer dans le contexte si on veut les revoir de nos jours. Eux, c'est pas vrai. Eux, vous prenez Blu-ray, vous mettez le premier disque en route, c'est parti, quoi. Et c'est complètement absurde, c'est complètement délirant, c'est limite psychédélique. C'est même pas limite, c'est complètement psychédélique. Donc voilà, c'est ça qui fait l'intérêt du truc.
C'est Eric Idle, qui est le musicien de la bande, qui en effet revendique un peu cette influence du dadaïsme et du situationnisme. C'est quelque chose qu'il a découvert avec un groupe de rock psychédélique qui s'appelle Bonzo Dogs. D'ailleurs, un membre de Bonzo Dogs va continuer à travailler avec lui sur tous ses projets musicaux par la suite, y compris, par exemple, la comédie musicale Spamelot, qui est la version musicale sur scène de Sacré Graal. Et c'est vrai que l'émission Monty Python Flying Circus est un peu le mélange de cet esprit psychédélique de la fin des années 60 avec un humour britannique un peu plus classique qui est hérité des émissions radio des années 50 comme le Goon Show, qui est l'émission radio qui a révélé Peter Sellers notamment. Donc il y a un peu voilà ce mélange d'humour un peu plus classique dont ils héritent également de ce qu'ils ont fait à la fac et de tout simplement de l'époque, de la fin des années 60, qui permet d'avoir quelque chose un peu plus délirant, un peu plus hors norme et qu'ils vont importer à la télévision où ça n'était pas encore vraiment la norme.
Hey, Manuel Campos, a real piss, and he was very rarely stable. I digger was a boozy beggar who could think you under the table. David Hume could out-consume Wilhelm Friedrich Hegel, and Wittgenstein was a beery swine who's just a schloss to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill on his own free will, on half one shiny was particularly ill. Later they say he could sing it away.
Vous écoutez Alain Carazé et Romain Nigita, deux grands spécialistes des séries télé, au micro de Culture Prohibée.
And rainy day carp was a drunken fart, I drink therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thinker but a bugger when he's pissed.
Quelle trace, selon vous, laisse cette série dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, quoi, voilà, parce que c'est vraiment important, cette série, elle a une place vraiment à part dans l'histoire de la pop culture.
Elle laisse une trace plus ou moins floue, malgré toute la passion que j'ai pour les Monty Python et pour cette série. Ce qui est amusant, des fois, quand je parle des Monty Python avec certaines personnes, elles oublient un peu qu'il y a eu, à la base, cette émission télé. Maintenant, pour plein de personnes, les Monty Python, ce sont les films.
Exactement.
Ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, en France, la première chose qu'on ait vue des Monty Python, ce sont les films. L'émission n'a été diffusée pour la première fois qu'au début des années 90. Donc plus de 20 ans après ses diffusions initiales en Grande-Bretagne. On a d'abord eu les différents films, d'abord la première folie des Monty Python, qui était en fait des remakes, des sketchs télé, qui avaient été refilmés sur pellicule pour être exploités d'abord aux États-Unis. C'est d'abord le premier truc qu'on a eu d'eux, sous le titre Pataquès, en France, avec une affiche dessinée par Gottlieb, et ça a fait un bide total. Évidemment, on ne connaissait pas l'émission, on ne connaissait pas les Monty Python, bref, c'est passé complètement inaperçu. Et c'est surtout avec ensuite la sortie au cinéma de Sacré Graal, puis de la vie de Brian, que ça a été un carton, jusqu'à carrément leur dernier film, Le sens de la vie, qui était sélectionné au Festival de Cannes et qui a remporté, je crois, le Grand Prix du jury. Et ça n'est qu'après tout ça que finalement, au début des années 90, il y a eu la diffusion du Félix Circus en quasi-simultané sur SR3 dans l'émission Continental, qui était présentée par Alex Taylor, une émission qui passait des séries en VO à l'époque, complètement révolutionnaire. Sur une chaîne hertzienne, des séries en VO, c'était pour apprendre l'anglais, soi-disant.
Et voilà, le prétexte de l'émission, c'était pour apprendre l'anglais ou pour mieux connaître l'Europe et pour apprendre l'anglais, on vous passe des séries en VO sous-titrées, comme ça, ça vous apprend l'anglais. Ce n'était qu'un prétexte, je vous rassure complètement.
Hein. Et puis, je crois que la même année, c'est qu'Elmont qui diffusait sur Canal Genie au tout début de l'existence de la chaîne. Mais voilà, il a fallu attendre plus de 20 ans pour que les Français découvrent l'origine des Monty Python. C'est vrai que du coup, pour la plupart du public français, les Monty Python, ce sont surtout les films, c'est Sacré Graal et La vie de Brian. Donc finalement, la série en tant que telle, c'est plus parce qu'elle a permis aux autres de faire derrière. C'est plus parce qu'elle a montré à plein d'autres artistes, que ce soit dans la bande dessinée, bah notamment Gottlieb, qui est un peu un espèce de cousin français de l'écrivain Monty Python, les nuls qui ont été aussi vachement influencés par eux, autant que par le Saturday Night Live, quelqu'un comme Dupontel qui révère les Monty Python, qui a même travaillé avec certains d'entre eux. Donc finalement, même si la série en tant que telle a été un petit peu oublié du public, eh ben, ils la connaissent sans savoir. Ils la connaissent à travers les films et à travers leurs descendants plus ou moins proches.
Ah, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Parce que en France, en effet, la série n'a pas d'impact, n'a pas eu d'impact simplement parce qu'on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue à l'époque. Donc, on a toujours été persuadés que c'était des personnes de films. C'est des gens qui faisaient des films, un peu comme des Laurel et Hardy de groupe ou les Marx Brothers, etc. Mais pas du tout des gens de séries télé. En Angleterre, étonné qu'il y ait eu la série télé, ça leur a ouvert la porte, plus ou moins pour faire les films, ça leur a donné une relative respectabilité, ça leur a ouvert la porte pour faire d'autres séries, puisque John Cleese a fait par la suite, mais séparément, c'est chacun, mais John Cleese a fait par la suite un petit chef-d'œuvre de la sitcom britannique qui s'appelle L'Hôtel en Folie, Fawlty Towers, qui est encore considéré de nos jours par tous les artistes anglais comme la référence ultime de la sitcom absolument parfaite et qui est toujours rediffusée souvent sur la BBC, encore de nos jours, donc c'est quand même assez hallucinant. Et Eric Idle continue de faire de la télévision à travers différents programmes. Enfin, je veux dire, voilà, donc ça leur a ouvert plein de portes, pas uniquement celle du cinéma, mais aussi celle de la télé. Et en plus, ils se sont retrouvés régulièrement à travers des spectacles. Romain en a assisté à un des derniers d'ailleurs. Donc voilà, donc, c'est vrai que la série leur a ouvert des portes, la série les a révélées au public et leur a ouvert des portes. Même si, au départ, la série n'était pas faite pour être rediffusée, elle n'était pas faite pour être conservée, mais quelque part, ça leur a ouvert les portes. Même dans les années 70, de toute façon, il y avait tellement peu de moyens de revoir des épisodes de Monty Python fait avec Circus à la télévision britannique, que la seule manière de se replonger là-dedans, c'était avec des disques, avec des disques racontés dans lesquels ils rejouaient les sketchs, un peu comme à notre époque, on avait des disques racontés de Nounours, Pimprenel et Nicolas, vous voyez, mais un peu le même genre, quoi. C'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que la série est passée, elle n'est pas passée sous le radar en Grande-Bretagne, non, mais quelque part elle a plus ouvert les portes que demeurer une série culte. Et c'est avec le recul, maintenant, qu'on se rend compte que ça a été ça, le dénominateur commun un peu de tout ça, le démarrage un peu de tout ça, et que quelque part, ont continué un peu dans ce style-là, quoi. Ils continuent d'avoir et des films et des apparitions à la télévision. Il y a eu aux États-Unis un programme qui s'appelait The Rutters, qui était une parodie des Beatles. C'était ni plus ni moins qu'un espèce d'épisode long format de Monty Python avec un seul sketch dans lequel ils parodiaient les Beatles avec un groupe imaginaire qui s'appelait les Rutters et qui les parodiaient complètement. Donc voilà, tout part de là. Sauf que même si tout part, les films, etc., même si tout part de la série, de Monty Python Flying Circus, tout part de là, mais la série elle-même, elle est moins connue. C'est paradoxal.
aujourd'hui, justement, le public va pouvoir redécouvrir à travers ce très très beau coffret en Blu-ray, avec 7 Blu-ray, l'intégrale de cette série, avec en plus pas mal de bonus très intéressants, dont un bonus où vous figurez tous les deux hein, dedans, voilà. Justement, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un spectateur d'aujourd'hui qui est vierge de toute relation avec les Monty Python ? Il ne les connaît pas. Et qu'est-ce que vous diriez pour l'inciter à se précipiter sur ce coffret qui est extraordinaire, puisqu'il permet de voir en plus la série dans des conditions assez optimales.
Bah, pour reprendre les paroles d'un grand philosophe français, si on n'a pas vu les Monty Python à 50 ans, on a raté sa vie. Non, mais voilà, non, plus sérieusement, c'est bientôt Noël. Mettez ça sur votre liste de cadeaux à Papa Noël. Si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, volez-en un, je ne sais pas. Plus sérieusement, il faut. Si vous connaissez absolument pas les Monty Python, si vous n'avez jamais vu les Monty Python, même pas les films, etc., à la limite, c'est un bon moyen de commencer, puisque c'est des épisodes d'une demi-heure. Donc au moins, vous n'aurez pas un film d'une heure et demie à voir. Le rythme va très très vite, puisque donc c'est une série à sketch. Les sketchs font 2, 3, 4 minutes maximum chacun. Donc au moins, s'il y en a un qui ne nous intéresse pas, qui ne nous plaît pas, bah, on passe rapidement au suivant. Même si chaque épisode d'une demi-heure, finalement, il y a une espèce de trame, mais on passe facilement d'un sketch à un autre. Moi, j'ai le souvenir terrifiant pour vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, chez un ami qui fêtait son anniversaire, quelqu'un à l'époque lui avait offert le DVD de Sacré Graal, qui venait de sortir, et bon, il avait mis le DVD en lecture comme ça pendant la soirée d'anniversaire, et une des convives qui était là, qui était médusée en voyant l'écran, mais qui évidemment était paniquée de ne pas comprendre ce qu'était ce truc. Mais vraiment, elle avait l'air terrifiée de ne pas comprendre ce qu'elle voyait. Et il y en a pour une heure et demie. Donc là, au moins, si vous ne comprenez pas, c'est dur qu'une demi-heure chaque épisode. Non, je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec l'esprit ouvert. Il faut avoir un minimum d'humour quand même. Hein. Si vous n'avez absolument pas le sens de l'humour, c'est même pas la peine de jeter dessus. Mais si vous êtes un minimum sensible à la comédie, qu'elle soit américaine ou anglaise, voire française, mettez le lecteur en route et n'essayez pas de savoir à quoi vous attendre. Laissez-vous embarquer dans leur univers.
Moi, je dirais que c'est absolument essentiel de voir ces épisodes et d'avoir ce Blu-ray pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est la quintessence de l'humour british. On parle beaucoup de l'humour anglais, l'humour british, sans pouvoir vraiment le définir. On parle de Absolutely Fabulous, on parle de Mr. Bean, on parle de trucs, enfin voilà. Et on n'arrive pas trop à définir l'humour british, qui est un humour un peu décalé, un humour un petit peu pince sans rire, un humour un peu clin d'œil, etc. Ben voilà, la quintessence de l'humour british, l'humour absurde, dadaïste, etc., c'est cette série, c'est les Monty Python. Pour la deuxième raison, c'est que c'est l'origine des Monty Python. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quelque part, si vous nous dites que le sens de la vie est votre film favori, ou que, oh là là, les passages de Sacré Graal sont absolument extraordinaires, ben c'est carrément crucial quand même de voir d'où ça vient. Et ça vient de là. Parce que quelque part, comme je le disais tout à l'heure, moi, ce qui me marque le plus, c'est qu'ils n'ont pas bougé. C'est que leur façon de penser, leur humour, leur style a évolué, mais il n'a pas bougé. Ils ne sont pas allés dans des directions complètement différentes après, quoi. Donc, quelque part, l'origine de ça, c'est ça. Ensuite, c'est parce que, de toute façon, en termes de qualité d'image, de son et tout, on ne pourra pas faire mieux.
C'est disponible en Blu-ray et en DVD. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas de lecteur Blu-ray, ils peuvent se rattraper sur le DVD. Ils ne sont pas obligés d'aller voler un lecteur Blu-ray. Voilà. Et c'est disponible chez Rimini Édition. Et c'est effectivement un très beau travail. Et pour les fans des Monty Python, que nous sommes tous les trois, je pense, et vous, encore un peu plus, beaucoup plus que moi même, je pense que ce coffret, c'est effectivement le cadeau idéal de Noël.
There's a place you're always welcome, that's as nice as it can be. Everyone can get in, 'cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath, just lie around all day, with not a single bill to pay. Hooray! That's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died.
why not simply join them on the other side? That's death.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Yeah.